France Inter.
Leur philo. Bienvenue dans Leur philo, Lilian Alom à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Adèle Cagla à la console.
Surtout Charlie, Charlie partout, je suis Charlie, où est Charlie? Nous sommes Charlie. C'était un beau moment, je pense que c'était la première fois que j'ai vécu ce sentiment d'être française et de vraiment le comprendre.
J'étais dans une partie de la manifestation relativement très silencieuse. Il y avait une union et une communion.
Ce qui comptait, c'était l'envie d'être ensemble. Et je dirais même que c'est ce qui avait le plus de valeur. On avait besoin de créer un espoir commun. Il y avait une illusion de, après un événement aussi atroce, de se dire qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'être ensemble et de tout faire pour être ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt chacun qui tire la couverture vers soi.
L'heure philo. Patricia Martin, sur France Inter.
C'était le 11 janvier 2015. Dans toute la France, il y a eu des manifestations assez impressionnantes. On a pu estimer grosso modo à 4 millions de Français qui étaient dans la rue. On a senti une ferveur, une union, l'envie de faire front face à la barbarie. Tout faire pour être ensemble, et comme on vient de l'entendre, est-ce que c'est une illusion vraiment? Voulons-nous encore vivre ensemble? C'est le titre de l'essai de Pierre-Henri Tavoyau qui est notre invité. Le livre est publié chez Odile Jacob. Jérémy Pelletier, quant à lui, est co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Et ensemble, nous commenterons notamment les résultats d'une étude effectuée pour la Fondation permettant d'esquisser les contours de la société idéale de demain aux yeux des Français. Pierre-Henri Tavoyau, si vous avez réfléchi à la question du vivre ensemble, c'est qu'il vous a semblé que vivre avec autrui n'allait plus de soi. Est-ce que c'est un phénomène récent ou est-ce qu'on peut dire, grosso modo, pour le situer dans le temps, que c'est post-Covid ?
C'est avant post-Covid, mais d'ailleurs l'expression « vivre ensemble » est elle-même une expression assez récente. On parle du vivre ensemble, c'est des années 90 à peu près. Et donc, on pourrait se dire que quand une expression apparaît, c'est qu'il y a un problème.
C'est-à-dire par rapport à vie commune, par exemple. C'est plus exigeant que vie commune ?
Non, c'est minimaliste le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça ne me satisfait pas. C'est pour ça que j'intitule mon livre « Voulons-nous ? » C'est le vouloir qui est important, c'est pas le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est quoi ? C'est être côte à côte. C'est cohabiter côte à côte, voire face à face. Et donc c'est simplement un constat de juxtaposition des sphères privées. Ça fait pas la vie commune, ça, le vivre ensemble. Et quand on défend aujourd'hui le vivre ensemble, on oublie justement cet élément de commun, c'est le vouloir vivre ensemble. Et puis on pourrait ajouter en plus, pour avoir une bonne démocratie, il suffit pas de vivre ensemble, il faut pas simplement non plus vouloir vivre ensemble, il faut discuter ensemble de la manière dont on veut vouloir vivre en commun, c'est l'espace public. Et une fois qu'on a ces trois blocs, une société, un État, si je puis dire, et un espace public, là on peut dire qu'on peut commencer à former quelque chose qui est intéressant.
Et envisager, accepter l'altérité.
Évidemment, parce qu'à partir du moment où on discute, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, et c'est pour ça que ce moment-là est important. Il faut un moment d'unité. Quand on discute, ça veut dire une chose très profonde, c'est qu'on préfère débattre que se battre. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc le fait même de la discussion implique qu'on est d'accord sur l'essentiel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut être inquiet en effet parce que...
Non, on aime encore le débat quand même en France.
En France on adore ça, ça c'est une très très bonne nouvelle, mais au-delà de cet élément qui est important, il faut le rappeler, nous aimons le débat, nous vivons dans le débat, nous Français, on même le coup de génie d'un président au moment de la crise des Gilets jaunes, ça a été d'organiser le grand débat et ça a marché. Ça a marché parce que ce grand débat, ça a permis effectivement de neutraliser, même s'il y avait beaucoup d'hypocrisie et d'art politique dessous, ça a permis effectivement de pacifier un tant soit peu cette crise, et ça a été une solution à cette crise, donc c'est important. Mais malgré tout, ce qu'on ressent dans notre quotidien, c'est la conflictualisation. C'est le fait que ces débats...
Vous dites ça en vous touchant le cœur.
Oui, c'est la conflictualisation. C'est ce que j'appelle la lutte des clashs. C'est-à-dire le sentiment qu'on a effectivement des opinions de plus en plus antagonistes, des visions du monde de plus en plus antagonistes, même non seulement antagonistes, mais qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que voilà, c'est des bulles de confirmation sur Internet. Et ça, ça donne un sentiment d'inquiétude. Alors, il ne faudrait pas que ce sentiment d'inquiétude nous fasse passer le fait que malgré tout, en effet, nous continuons à débattre, on a plaisir à voir les gens débattre, on a plaisir à voir les gens s'engueuler d'ailleurs aussi, et ça c'est plutôt une vertu. Mais devenue de plus en plus inquiète.
Vous êtes d'accord avec cette inquiétude, Jérémy Pelletier, dont parle à l'instant Pierre-Henri Tavoyot, oui, vous qui prenez le pouls de la société française en permanence par le biais de la Fondation Jean Jaurès.
On essaie en effet de prendre le pouls de la société, on essaie de regarder quelles sont les tendances aussi en matière de consommation, en matière de loisirs, en matière d'habitude de vie. Et en effet, je suis d'accord avec cette inquiétude et elle s'illustre d'ailleurs à travers un élément qui est le recroquevillement de plus en plus d'individus sur leur espace d'ultra-proximité. Il y a un journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Cogbert et qui a parlé, pour raconter l'époque, pour raconter un peu la société, de civilisation du cocon. Civilisation du cocon, c'est une civilisation qui se recroqueville sur son espace d'ultra-proximité, qui est beaucoup plus sédentaire qu'elle ne l'était par le passé. Il y a plein de raisons à cela, il y a plein de raisons en matière de consommation, en matière d'habitude de vie, mais une des raisons qui est très importante, c'est la difficulté, en effet, à accepter l'altérité, la difficulté de nouveau à aller vers l'autre, à aller vers celui qu'on ne connaît pas. J'étais très frappé, moi, par un exemple qui est l'évolution dans nos façons de faire la fête. Quand vous
tout
regardez
suite, vous
la façon dont nous faisions la fête il y a 20 ans, il y a 30 ans, beaucoup dans des espaces publics, beaucoup à l'extérieur de chez soi, cet élément-là a été remplacé par un élément et qui s'est beaucoup accéléré d'ailleurs depuis la crise sanitaire, c'est la fête à la maison. Et la fête collective, la fête à l'extérieur, a été de plus en plus remplacée par la fête à la maison. Pourquoi ? Parce que, en effet, on préfère faire la fête avec des gens que l'on connaît, avec des gens que l'on maîtrise, on préfère maîtriser le cours des choses, on préfère maîtriser le cours de la soirée. Pourquoi ? Parce que l'autre est devenu dangereux, l'autre est devenu suspect. On est dans un pays, vous savez, et justement, vous parliez de coup de sonde, 7 Français sur 10 considèrent qu'on n'est jamais assez trop prudent quand on a affaire aux autres. Dans une société qui considère, dans une grande majorité, qu'on n'est jamais assez trop prudent quand on a affaire aux autres, à affaire à celui qu'on ne connaît pas, bah en effet, la question du vivre ensemble, même la question de la coexistence, n'est plus si évidente. Donc,
c'est dommage, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à dire, mieux vaut être prudent face à soi-même.
Oui, absolument, mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est l'autre, en effet, qui est suspect. C'est la raison pour laquelle on voit, d'ailleurs, des valeurs comme la famille qui reprennent du poil de la bête, qui reviennent comme
le
des valeurs
couple,
un peu
la
cardinal.
Fidélité, t'as absolument. Qu'à croire, enfin je sais pas quel âge ont ceux que vous avez interrogés, enfin je veux dire tout ça c'est extrêmement tradit.
Oui absolument, mais la famille devient l'espace le plus rassurant, devient l'espace qui revient en effet à la mode, notamment depuis la crise sanitaire, parce qu'on a aussi réappris évidemment à vivre avec sa famille, mais en effet c'est l'espace le plus rassurant, on se définit beaucoup plus à travers sa famille que par le passé, donc en effet je souscris à ce que disait Pierre-Henri Tavoyot et on le voit voilà, à travers des comportements, des habitudes de vie chez les Français.
Mais est-ce que c'est pas parce que le monde, finalement le monde extérieur, on peut dire par rapport à ce que vous venez de dire, Jérémy Pelletier, est-ce que c'est pas parce que le monde extérieur apparaît plus, je sais pas, paraît peut-être plus inquiétant qu'autrefois ?
En fait, je pense qu'il y a une question peut-être encore plus de fond, c'est que, au fond, la question pourquoi voulons-nous encore vivre ensemble, va pas de soi. Dans notre univers contemporain.
Si on ne vit pas avec les autres, alors comment on vit ? C'est pas possible.
Et justement, l'expérience du Covid...
Bah oui, mais il y a bien des gens qui sont allés mal à ce moment-là.
Oui, mais ça a été un moment de suspension, c'est-à-dire un moment d'interrogation. Suspension, c'est toujours le moment où on se pose des questions. Aujourd'hui, on a la possibilité quand même de faire plein de trucs sans être en contact avec les autres. On peut aller voir Netflix, on peut commander ses repas par Uber.
Les réseaux sociaux, on peut voir les gens.
Voilà, tout ce qui serait apparu comme une sorte de pathologie dans le monde ancien est devenu quasiment le mode normal. Donc voilà, le contact avec les autres. Et donc, en fait, la vie commune est menacée, si on peut dire, avec cette incertitude sur pourquoi vivons-nous avec les autres, par deux aspects. D'abord, la tentation du repli, c'est-à-dire l'idée... Vous voyez, aujourd'hui, l'exigence morale, c'est « be yourself », soyez vous-même. Donc, de deux choses l'une, soit on y arrive et on devient narcissique, on n'a pas besoin des autres, soit on n'y arrive pas et on devient déprimé et on s'enferme chez soi. Voilà.
Et on donc, peut aussi être narcissique et déprimé. On peut être les deux. Hein.
Oui, enfin, pas totalement. C'est, disons, le déprimé, c'est quand même le sentiment de vide intérieur. Donc, voilà, on se replie sur soi, c'est-à-dire on s'enferme dans sa bulle, on s'idolâtre, soit la bulle, où on, effectivement, on touche le fond. Donc, ça, c'est une première tendance. Et puis, il y a une deuxième tentation, qui est la tentation inverse, que de dire aujourd'hui, notre monde est extrêmement compliqué, on n'arrive plus à lire la société, la comprendre. C'est ce que vous disiez à l'instant. Eh bien, comme on a une certaine exigence d'avoir chacun de nous une vision du monde, parce qu'on a tous obligé maintenant des intellectuels, voilà, c'était pas plus réservé à quelques élites, aux philosophes de jadis, tout le monde doit être un intellectuel, eh bien on est, pour ainsi dire, comme aspiré par des scénarios qui sont des scénarios simples, et notamment des scénarios de guerre civile.
Alors ça, la guerre... Oui,
voilà.
Ça, c'est...
Et là, vous avez, je vous en fais la liste. La lutte des classes, bon, ça c'était, c'est un peu vintage, hein. La lutte des sexes, la guerre des générations, la guerre des races qui revient en force, et puis la guerre des civilisations. Et donc vous avez, voilà, vous dites comment lire la société, bah c'est la guerre. Voilà.
Mais alors vous avez cette phrase dont je voudrais bien que vous nous expliquiez exactement ce que vous avez voulu dire, que j'ai noté dans votre essai, Pierre-Henri Tavoyot. Nous ne comprenons pas bien le monde dans lequel nous vivons parce que nous sommes devenus plus savants. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, ça, alors ça, c'est terrible pour les Lumières, parce que les Lumières avaient cette idée. Moi, je suis vraiment un adepte des Lumières, et j'ai travaillé toute ma formation philosophique sur la philosophie des Lumières, mais la croyance fondamentale des Lumières, c'est une fois qu'on saura, une fois qu'on sera lettré, une fois qu'on aura accès à l'information, nous allons être plus libres, et une fois qu'on sera plus libres, on sera plus heureux. Hélas, non. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une saturation d'informations. Et le problème, on s'aperçoit, c'est pas la quantité d'informations, c'est la capacité à l'organiser, à la classifier. C'est ça le défi. Et pour ça, ça demande encore plus d'instruction. Et par ailleurs, il faut bien le reconnaître, c'est pas parce qu'on sait plus qu'on est plus heureux. Kant le disait d'ailleurs dans une très belle formule, si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait pas donné l'intelligence. C'est hélas très juste.
Alors on va écouter ensemble Hannah Arendt, puis après Jérémy Pelletier, vous réagirez aussi. Hannah Arendt.
It rests only on on its conviction.
Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut.
As well as I do, and can therefore judge for himself if he wants to. How I can.
Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales.
Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens in thinking is
tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse.
How I can convince, I think non-thinking is even more dangerous.
Mais ne pas penser est encore plus dangereux.
I don't deny that thinking is dangerous, but I would say not thinking and not et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Vous êtes d'accord?
Elle parle français.
Vous êtes d'accord avec Anna Arendt?
Oui, aussi pour dire que, en effet, c'est l'esprit critique, c'est indispensable, c'est ce qui nous rend libre, mais c'est pas ce qui nous rend heureux. C'est voilà, et c'est ça le grand défi. Donc, face à cette exigence de l'esprit critique, on est prêt à ramasser tout ce qui se présente sous la main pour nous rassurer. Et paradoxalement, c'est ça la folie de notre temps, se dire tiens, nous sommes en train de vivre une guerre civile. Ça nous rassure, parce qu'on comprend le monde. Tiens, il y a une catastrophe climatique qui va venir, quelque part ça nous dit, tiens, au moins on comprend le sens du monde, ça veut dire on maîtrise un peu les choses.
On met des mots sur les choses.
Et donc c'est ça qu'il faut arriver par un surcroît de travail, par un surcroît de connaissances, pour dire attention, les guerres civiles, il y a des tensions, mais ce n'est pas forcément des guerres. Attention, oui, il y a une catastrophe peut-être qui va arriver, mais il y a peut-être les moyens aussi. Et de remettre de la nuance, de remettre plus de complexité encore, et d'avoir... conscience de la saveur de la complexité. C'est ça le grand défi. C'est de dire, évitons le simplisme et ayons la saveur de la complexité.
Jérémy Pelletier.
Ouais, je crois qu'un des enjeux, c'est de créer des individus qui sont lucides, heureux. Et je crois que c'est ces deux termes-là, en fait, qu'il faut réussir à mettre ensemble. C'est ces deux termes-là qu'il faut réussir, en effet, à mettre dans la tête des individus. Mais pour être des lucides, heureux, il faut être capable de faire quelque chose. Je trouve qu'on a beaucoup de mal à faire, que les responsables politiques ont beaucoup de mal à faire, que globalement, les gens qui animent ce qu'on appelle le débat public ont du mal à faire. C'est dessiner, en effet, un avenir désirable. Dessiner une société désirable. Je pense qu'une grande partie de ce qu'on a évoqué depuis le début, une grande partie de la défiance vis-à-vis d'autrui, une grande partie de nouveaux comportements, en effet, dans la société, est liée, en effet, à ce futur qu'on nous dessine comme un futur absolument apocalyptique, comme un futur sans avenir, comme un futur absolument catastrophique. C'est ce qu'on entend beaucoup dans la bouche de beaucoup qui anime le débat public. Et donc, si on est incapable de dessiner un futur désirable, si on est incapable de dire, mais finalement, peut-être que la société qu'on va vous dessiner en l'adaptant pour tenir compte évidemment des enjeux écologiques, des enjeux environnementaux, bah peut-être que cette société dans 20 ou 30 ans sera plus agréable en matière de travail, en matière d'emploi, en matière de vie de famille, en matière d'habitation, en matière de vivre ensemble, pour reprendre le terme, en matière de fête, en matière d'alimentation, en matière de rapport avec vos enfants, etc. Et je trouve qu'on a beaucoup de mal, en effet, à dessiner ce futur désirable. On a beaucoup de mal à faire ce travail, finalement, qui est un travail de prospectif. En fait, c'est quel est le travail dans 20 ans, à quoi il va ressembler, quelles sont les opportunités de ce travail dans 20 ans et dans 30 ans, quelle sera la ville dans 20 ou 30 ans. Et je crois que ça, c'est un enjeu très important pour, en effet, reconstruire des individus qui sont à la fois lucides et à la fois heureux. Je voulais rebondir sur un élément, sur, en effet, être surinformé ne rend pas plus heureux. Bah, les Français sont en train de s'en rendre compte, et on le voit à travers un élément qui est le décrochage vis-à-vis de l'information. Nous, ça fait maintenant 4 ans qu'on mesure
donc
un phénomène.
Donc à la Fondation Jean Jaurès.
Absolument, à la Fondation Jean Jaurès, ça fait 4 ans qu'on mesure un phénomène qu'on a appelé la fatigue informationnelle. On a beaucoup parlé d'infobésité depuis maintenant 10 ans, et on ne va pas revenir sur le thème.
On avait parlé avant de la fatigue d'être soi. Avec
absolument, la fatigue d'être soi. Maintenant, on voit en effet un nouveau phénomène arriver qui est la fatigue informationnelle. Fatigue informationnelle, c'est l'effet anxieux que nous renvoie l'information en permanence, l'effort que cela nous demande en effet pour séparer le bon du vrai, séparer l'importance du secondaire, séparer l'essentiel du non-essentiel. Donc, cela demande un effort plus important que par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Le caractère, en effet, anxiogène, polémique du débat public fait que de plus en plus d'individus nous disent « j'ai décidé de tout couper ». J'ai essayé de me retirer. De me retirer de l'info, j'ai essayé d'éteindre la télé, j'ai décidé de désactiver les notifications, j'ai décidé d'arrêter, en effet, d'écouter la radio, de regarder la télévision, de lire les journaux. Et ça, c'est un élément problématique, parce que ça se fait sur le dos de « je vais être mieux comme ça, c'est pour mon bien-être, c'est pour mon bien-être cérébral, c'est pour l'oxygène de mon cerveau ». Le problème, c'est que cette fatigue informationnelle traduit un autre élément, à mon avis, qui est une forme de fatigue démocratique. Et quand on décide de sortir de l'info, ça veut dire qu'on décide de se désintéresser du sort du monde, de se désintéresser du sort d'autrui, de se désintéresser du sort de celui qui n'est pas dans son espace d'ultra-proximité, de celui qui n'est pas dans sa maison ou dans son jardin. Et donc, je pense que ce phénomène-là, en effet, de sortie de l'information qui se fait, en effet, pour aller mieux, bah, à la fin, traduit quelque chose, à mon avis, de problématique, qui est justement un retrait vis-à-vis de la communauté.
L'heure philo sur France Inter, voulons-nous encore vivre ensemble, tenant le thème avec Jérémy Pelletier et Pierre-Henri Tavoyau, qui avait écrit donc un essai intitulé comme ça, voulons-nous encore. Et l'important, si j'ai bien compris, c'est donc bien voulons-nous hein, parce que vous n'avez rien contre.
Kateren balu ni masili wolulada kokanu bodoni taro Waram bofaluye. Bofaluye. Mama ya, nyemo ya kuntiga ya, wotili la mongoma ni musuti. Angana tolo musuluna.
L'enfer, c'est les autres, a été toujours mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qui est de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours, le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous.
Vous aurez reconnu Jean-Paul Sartre, évidemment, la mise au point d'importance sur l'enfer, c'est les autres, Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, enfin...
Non, parce qu'on fait quand même un contresens là-dessus.
Oui, mais...
Alors, oui,
c'est un
que
peu, si j'osais dire, c'est un peu de mauvaise foi concernant Sartre, puisque c'est un concept chez Sartre. Non, parce que ça veut dire effectivement que je suis enfermé dans le regard d'autrui. Oui, bien sûr, c'est une. Mais l'intersubjectivité, c'est un va-et-vient constant entre l'autre et moi. Il n'y a pas de toi, pas de moi, pas de moi, pas de toi. Si c'est ce que veut dire Sartre, alors là, la formule l'enfer, c'est les autres est proprement inappropriée, parce que donc il y a une sorte de coquetterie dans sa justification. Il a eu une bonne formule, mais il ne l'assume pas. Je préfère la formule de Jean-Luc Marion qui dit « L'enfer, c'est plutôt l'absence de tout autre ». Ça me paraît, disons, plus davantage correspondre à l'expérience commune. Mais au fond, ça pose la question de savoir effectivement pourquoi est-ce qu'on veut vivre avec les autres, et qu'est-ce qu'on gagne à la vie avec les autres. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment aujourd'hui, dans une société contemporaine, société d'individus, comme on dit. C'est vrai qu'une société d'individus, ça n'a aucune raison de marcher. Parce que là où il y a de la société, du collectif, il n'y a pas d'individuel. Et à l'inverse, là où il y a du individu, il n'y a pas du collectif. Je pense néanmoins que ça peut marcher, et même marcher très bien, si on envisage les choses de manière dynamique. Une société d'individus, c'est une société qui fabrique des individus, ça on sait très bien faire maintenant, ça c'est acquis.
Mais alors tout, c'est les individus qui produisent la société.
Exactement, qui produisent du lien. Et ça non seulement ça marche très bien, ça peut marcher très bien, mais c'est même grandiose. Parce que ça veut dire la chose suivante, c'est qu'un individu, d'abord, il ne se fait pas tout seul, le self-made man est une totale illusion, on a besoin accessoirement.
Dès l'enfance, on le voit, le bébé, il a besoin d'une interaction.
Pour bien fabriquer un bon individu, il faut des autres. Et plus encore, pour fabriquer un bon individu, il faut que cet individu aide les autres. Parce qu'on s'aperçoit que, justement, on se considère vraiment comme un individu. Prenons-le au travail, par exemple. Dans les enquêtes très intéressante et très profonde philosophiquement sur le travail, on dit le bien-être au travail. Bon, évidemment, c'est un peu de salaire, ça je reconnais. Hein. C'est un petit peu statut social, mais le truc essentiel, c'est
la reconnaissance.
Ce qu'on appelle la reconnaissance, mais au sens profond du terme, c'est-à-dire avoir quelqu'un sur qui on peut compter, et plus encore, être quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Et ça veut dire que voilà, pour moi, ce qui constitue la clé de voûte de la vie commune aujourd'hui, la clé de voûte, pourquoi on veut vivre ensemble, pour grandir, et faire grandir. Pourquoi faire grandir ? Parce qu'en vérité, on ne veut pas grandir si on ne fait pas comment dire, les autres. Et ça, c'est vraiment
Peter Pan.
Exactement, ça c'est le contraire. C'est pour ça que ce mythe est vraiment sans doute un des mythes modernes le plus puissant. Je rappelle Peter Pan, la pièce de Peter Pan commence par cette phrase extraordinaire. Tous les enfants veulent grandir, sauf un, Peter Pan. Et quand on lit le texte, c'est vraiment pas joyeux. C'est une tragédie absolue, ce texte. C'est l'enfant qui ne veut pas grandir, qui n'a justement pas eu de bras pour l'accueillir à sa naissance. Il n'a pas été aimé. Et à partir de là, il vole, parce qu'il s'incarne dans aucun rôle. Il va au pays du Never Never, c'est-à-dire le pays où on renonce à tout renoncement, Never Never, le pays où on dit jamais jamais, c'est comme ça que Michael Jackson a appelé son ranch, le Never Never, c'est tout dire. C'est-à-dire, on ne veut s'incarner nulle part, aucune relation n'est là, et donc rien ne pèse, il n'y a aucun regard, c'est la liberté absolue, presque selon Sartre, il n'y a aucun regard sur moi qui atrophie ma liberté, je suis totalement libre, que je suis léger comme une plume, et je n'existe pas. Et je suis malheureux à force de rire.
Jérémy Pelletier.
Et je pense qu'en effet, le déficit de reconnaissance est l'un des problèmes majeurs, en effet, de l'époque, et l'un des problèmes majeurs, en tout cas, qu'on voit aussi dans les enquêtes qu'on mène à la Fondation Jean Jaurès. Pierre-Henri Tavoyer a parlé du travail. En effet, on voit qu'un des éléments de mal-être, en tout cas aujourd'hui, des salariés, en effet, français, c'est le déficit de reconnaissance. Mais en fait, comme pour beaucoup de sujets, le travail n'est que le réceptacle de beaucoup de choses en fait, qu'on voit dans la société. Et dans une grande majorité aujourd'hui, en effet, les Français nous disent manquer de reconnaissance. On le voit à travers un élément qui est l'augmentation de la solitude et l'augmentation du sentiment d'isolement. C'est beaucoup plus vrai, d'ailleurs, depuis la crise sanitaire que
le sentiment d'isolement qui n'est pas la même chose que la solitude.
Absolument.
C'est un peu la désolation d'Anna Arendt. Hein.
C'est ça.
C'est ce qu'elle dit.
Absolument. C'est, vous pouvez très bien être entouré, vous pouvez très bien avoir une famille, vous pouvez très bien avoir des amis. Force est de constater, en effet, qu'aujourd'hui, on voit une augmentation, en effet, du sentiment d'isolement chez une partie très importante de Français. Ça signifie un élément qui est que la fable des réseaux sociaux comme gain de sociabilité, comme outil qui allait accroître la sociabilité, qui allait accroître les interactions sociales, évidemment, après 10 ans d'utilisation dans leur poche, les gens font le bilan de tout cela et ils en font un bilan extrêmement néfaste. Et donc, en effet, ce déficit de reconnaissance-là est en train de faire souffrir vraiment les individus qui, en effet, étaient dans un idéal de vie isolé, se recroquevillant sur leur espace d'ultra-proximité, c'est en train de les faire souffrir à travers l'isolement, à travers la solitude. Il y a un exemple que je trouve intéressant qui illustre bien cette augmentation de l'isolement et cette absence de l'autre qui commence à faire souffrir. C'est les gardiennes d'immeubles qui vous le racontent. Il y avait un très beau livre qui avait été publié chez Autrement il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Éloge des loges. C'est un livre qui fait le récit des gardiennes et des gardiens d'immeubles de la ville de Paris. Très intéressant parce qu'il y en aura un jour plus, des gardiennes et des gardiens d'immeubles, et donc il faut écouter parce que c'est des témoins formidables de l'époque. Les gardiennes, parce que c'était beaucoup des femmes, elles vous disent il y a 20 ans, on nous appelait les concierges. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la dimension de délation, la connotation historique que le mot concierge, évidemment, avait. Elles nous disent, vous savez, on est passé de concierge à gardien. Pourquoi ? Parce que on garde le patrimoine de l'immeuble, évidemment, mais surtout, on est là pour garder le secret des gens. Et pourquoi là, pour garder le secret des gens, c'est qu'elles vous disent, une partie de notre métier maintenant repose sur le fait d'ouvrir la porte et d'écouter les gens parler de leurs problèmes d'amour, de leurs problèmes d'argent, de leurs problèmes de famille, de leurs problèmes de travail, etc., etc. Et donc, elles passent une partie très importante, en effet, de leur vie à écouter les gens. Et elles vous disent, nous avons, en effet, dans nos immeubles aujourd'hui, des gens qui n'ont plus personne à qui parler. Ça se traduit sur un autre exemple, un autre élément. On a fait une enquête à la Fondation il n'y a pas très longtemps sur l'amitié. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile qu'avant de se faire des amis? Est-ce que vous en avez davantage aujourd'hui qu'avant? Force est de constater que les gens vous disent que c'est beaucoup plus difficile de nouer des vraies amitiés, des amitiés fidèles, des amitiés solides. D'abord parce que le seuil s'est relevé, on fait beaucoup plus attention,
plus exigeant,
on a des critères qui sont beaucoup plus exigeants
en effet
par rapport à
avant. C'est aussi high level.
C'est
on
beaucoup
est plus exigeant en amour.
Ah oui, bien sûr.
Ouais.
On veut aimer, bien sûr, oui. Oui, c'est d'ailleurs c'est un sentiment où on veut effectivement à la fois l'amour romantique, la tendresse, l'amitié. Enfin, il y a une espèce de court-circuitage de toutes les phases de l'amour. On sait que ça, voilà, il y a plusieurs étapes dans une relation amoureuse, mais on les veut à tout moment.
Une des questions que vous posez d'ailleurs, Pierre-Henri Tavoyer de Ventressé, c'est voulons-nous encore coucher ensemble ce soir?
Oui, absolument. Mais c'est les piliers de la sociabilité. Donc aujourd'hui, effectivement, le sexe qui était d'habitude d'habitude animé par Eros est plutôt animé par Phobos, c'est-à-dire par la peur. Ces sentiments de peur qui naissent, sont de ne pas être à la hauteur, ce sentiment de violenté pour les hommes qui est très très fort, hein, parce qu'il y a une sorte de parfois à juste titre, il faut bien le constater.
On est bien
d'accord. Hein. Oui. Et donc, mes sentiments, effectivement, que l'homme a intégré le fait qu'il était une puissance de violence, alors que je rappelle que dans toute la tradition ancienne, c'est la femme qui est la puissance sexuelle. C'est la femme qui, de ce point de vue-là, est détestée parce qu'elle est toute sexualité et qu'il faut la contrôler. Or, aujourd'hui, le schéma, c'est totalement
inversé. Dans nos pays, mais il y a des pays où on contrôle sacrément les femmes.
Oui, bien sûr. On parle bien ici de l'Europe, etc. Mais non, l'idée était justement que la puissance sexuelle était attribuée à la femme. Juste sur l'histoire, j'ai aucun jugement de valeur sur ces questions. Mais
qu'aujourd'hui, vous faire engueuler en rentrant à la maison ce soir.
Et que la puissance sexuelle et la violence sexuelle est incarnée par l'homme. Les choses se sont totalement inversées. C'est très intéressant de voir d'ailleurs cette évolution. Mais du coup, tout ça fait que les relations sexuelles sont devenues beaucoup plus inquiète.
Ça s'explique aussi sur les... En effet, on le voit dans des études très intéressantes qui sont menées notamment par François Cros à l'IFOP, qui suit ces questions depuis très longtemps. Il note en effet une baisse du nombre de rapports sexuels qu'ont notamment une partie de la jeune génération. Ça s'explique aussi par un élément qui est la sensation, en tout cas plus importante, et une nouvelle fois, notamment depuis la crise sanitaire, de se sentir fatigué. Ça, on le sent. En effet, je parlais de la fête tout à l'heure, une enquête très intéressante qui a été menée par le Crédoc il n'y a pas très longtemps. Ils avaient demandé à la jeune génération « C'est quoi votre vendredi soir idéal ?» Définissez-nous votre vendredi soir idéal.
C'est de venir à leur philo.
C'est venir à leur philo, absolument. On le ferait bien d'ailleurs chaque vendredi. Bah, pour les jeunes, c'est pas venir à leur philo, c'est pas plus aller dans un bar avec des amis, c'est pas plus aller en boîte de nuit, c'est le plateau repas devant la télévision. Pourquoi je dis ça? Parce que, en effet, on
Netflix,
est quand même.
Même pas la télé, Netflix, parce que c'est.
Absolument.
On va choisir le programme. Quoi.
Absolument. En tout cas, c'est devant un écran. Ouais. Et force est de constater qu'en effet, on est dans une époque et dans une population qui se dit beaucoup plus fatiguée qu'elle ne l'était par le passé.
Et donc. Mais en même temps, il y a un sentiment de satisfaction. C'est-à-dire, quand on interroge les Français sur leur vie sexuelle, ils sont dans l'ensemble plutôt contents. Mmh. Voilà. En disant, j'ai une sexualité classique. Mais ça va. Voilà. Donc il n'y a pas du tout, il y a peut-être plus de rareté, mais on sort d'une période où la sexualité est une sorte d'exigence, et qu'il fallait absolument montrer que tout allait bien, etc. Là, les choses sont beaucoup plus pépères et beaucoup plus tranquilles, et cohabitent d'ailleurs, ça c'était un texte de Gilles Lipovetsky, je trouvais très intéressant, il appelait orgie hard et sexe sage. C'est-à-dire qu'en fait, les deux cohabitent, tout est possible, donc l'orgie hard est possible, mais c'est vraiment pas la majorité. On peut faire ça comme ça à titre expérimental une ou deux fois pour tester, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pépère. Oh là là, qu'est-ce que je dis encore là.
Non, alors ce que je voudrais quand même, c'est, on va parler quand même d'un thème qui est important que vous soulevez dans votre essai, c'est la laïcité. Mais je voudrais qu'on parle peut-être d'abord un petit peu de politique, sachant que la laïcité fait partie de la politique. Mais la politique et la démocratie, c'est quand même aussi un élément important. D'ailleurs, on voit bien dans les enquêtes que vous menez à la Fondation Jean Jaurès que les Français sont attachés à la démocratie, simplement, ils ne savent pas forcément quel type de démocratie. Et qu'il y a aussi une démo-anxiété, c'est-à-dire qu'on a, y a une défiance à l'égard du fonctionnement de la démocratie. Pourtant, on se dit que, la démocratie, c'est quand même là, on parle de consentement dans les rapports entre hommes et femmes. La démocratie, c'est le consentement de chacun à des règles qui nous dépassent. On devrait
pas qui nous dépassent, qui nous augmentent, qui nous obligent ou qui augmentent. C'est qui viennent de nous. C'est ça le paradoxe de la démocratie. C'est le baron de Münchhausen, la démocratie. C'est-à-dire celui qui tombe dans l'eau et qui se sort de l'eau en se tirant lui-même par les cheveux. C'est cette bizarrerie-là. C'est-à-dire, on obéit à des lois que nous nous donnons nous-mêmes. C'est absurde. D'ailleurs, ça a aucune raison de marcher. Ça marche plutôt pas trop mal. Et c'est ça le grand défi. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense le principal problème de la démocratie, du sentiment peut-être d'échec de la démocratie, se trouve plutôt du côté du kratos, du pouvoir, que du démos. Démos, kratos, le pouvoir du peuple. C'est le sentiment d'impuissance publique. C'est-à-dire le sentiment qu'au fond, on ne peut rien faire. Voilà, qu'on est confronté à des murailles d'impossibilité. On voit à peu près ce qui ne marche pas bien en termes de sécurité, d'immigration, d'éducation, de climat. Enfin, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. On voit qu'il faudrait agir de manière urgente sur tous ces sujets.
Et que ce serait aux politiques de le faire a priori.
Et les politiques nous disent, écoutez, on ne peut pas, parce qu'il y a plein de trucs de droit, il y a des contraintes économiques, il y a des réglementations, il y a des machins, etc. Voilà, on peut pas. Et pourquoi les Français sont-ils défiants? Bah, parce que les politiques eux-mêmes avouent qu'ils ne peuvent rien faire. Et quand ils essayent de faire un truc, ils disent « Ouh, on ne peut pas, on va créer une autorité administrative indépendante mais qui va faire le boulot. »
Vous êtes sévère juge, hein, avec les politiques, Pierre-Henri Davoyau, parce que vous dites que...
Sévère, mais respectueux. Bien sûr, mais que
les politiques devraient apprendre à résumer leur projet en trois lignes.
Oui.
Vous citez Richelieu, l'avait fait pour Louis XIII.
Oui, parce que je rejoins vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est il faut une vision du monde, c'est-à-dire il faut dire des choses simples, quelles sont les priorités des priorités. Je vais faire une petite anecdote. J'étais le jour où Emmanuel Macron organisait le grand débat avec les intellectuels à l'Élysée pour la clôture du grand débat. Et Emmanuel Macron ne cessait de dire à chaque question que posaient les intellectuels, ceci est absolument fondamental, ceci est absolument prioritaire. Il l'a fait 60 fois. J'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour l'intelligence d'Emmanuel Macron. Enfin, il nous a tous épuisés. À 3h du matin, il parlait encore alors que je suis allé me coucher. Mais ma question, c'était juste de dire, mais c'est quoi la priorité des priorités? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais qu'il faut tout traiter en même temps, mais à un moment donné, il faut donner un axe absolument prioritaire et s'y tenir. Et c'est ça le vrai, c'est ça qu'on attend tous en tant que citoyen. On en dit, voilà, on est prêt à faire des efforts, mais au moins que le fil conducteur soit clair. Et ça, je pense que c'est le vrai problème. C'est pas un problème de représentativité, c'est pas un problème de c'est le vrai problème de la crise démocratique aujourd'hui, et j'allais dire c'est un problème simple en vérité. Et c'est là où on laisse la porte ouverte au populisme. Il y a un Trump qui arrive et qui dit « je vais faire tout ça,
ah bah lui, c'est sûr que c'est même pas trois lignes son programme.
Et il dit « je vais le faire, je peux le faire, je vais le faire, et je suis en train de le faire par les mots et par les actes ». Donc là-dessus, il faut que nous inventions, effectivement, si je puis dire, un populisme libéral, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « voilà, je vais agir, en effet, c'est ça la condition indispensable de la démocratie ».
Jérémy Pelletier.
En effet, sur l'impuissance publique, je souscris totalement. Je pense que c'est le sujet, en effet, fondamental, le sujet principal, en effet, de la défiance aujourd'hui. Il y a deux éléments qui symbolisent bien ça, en tout cas, chez les Français aujourd'hui, qui remontent beaucoup, en tout cas, du terrain, qui vous sont remontés par tous les élus locaux. C'est, d'une part, les déserts médicaux. Tout le monde vous cite, en effet, ce sujet-là, depuis presque maintenant 10 ans, tout le monde sait que c'est un problème central, un problème majeur pour maintenant et pour les années à venir. Force est de constater que les choses évoluent très peu. Deuxième sujet, c'est le narcotrafic. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on parle de ce sujet. Ça fait maintenant plusieurs années que les gens sont témoins de l'évolution aussi de leur pays vis-à-vis de ces sujets. On leur donne le sentiment de ne prendre que maintenant, entre guillemets, à bras le corps le sujet. Donc, en effet, ces deux objets sont symboliques, en effet, de l'impuissance publique. Ça a une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français considèrent que l'entreprise est sans doute plus capable, davantage capable, en tout cas, que le politique pour changer les choses. Dans les enquêtes, on le voit, les Français considèrent beaucoup plus que le politique est capable de changer leur vie en matière de pouvoir d'achat, est capable d'avoir une implication positive pour la transition énergétique, est capable d'avoir quelque chose de positif, avoir un impact, en effet, positif pour transformer une société, pour transformer une ville, etc. Ça date aussi d'un moment qui est en effet la crise sanitaire. La crise sanitaire est un moment de grande révélation, un grand révélateur. La puissance publique était incapable au début de fournir des masques à ses concitoyens, était incapable de fournir ce qu'il fallait à ses soignants. Ce sont des entreprises qui ont été davantage capables, davantage efficientes, en effet, pour fournir des masques et pour fournir tout ce dont avaient besoin, en effet, des salariés, une population. Et donc, ce moment-là, à mon avis, de la crise sanitaire, qui a été un espèce de grand MOOC généralisé sur le pays, a été un grand révélateur de, ben, finalement, les entreprises, le marché est peut-être plus capable que le politique
mais
pour changer la vie.
C'est pas pour autant quand même qu'il faut avoir un Elon Musk français pour évaluer l'efficacité de l'État. Françoise Breut sur France Inter.
Gestes seront ludiques. Les hanches frôlent s'unissent.
Tout à l'heure, évidemment, la laïcité fait partie du vouloir vivre ensemble. À ce sujet, Catherine Kinsler, qui est philosophe, donc, auteure notamment d'un essai intitulé « Qu'est-ce que la laïcité ?»
La laïcité, au fond, ça veut dire que l'association politique, la République en l'occurrence, eh bien, elle ne doit rien, elle n'organise pas le lien politique à partir d'un surplomb religieux. Elle ne copie pas de lien religieux, elle commence avec elle-même. C'est là-dessus que s'installe ce qu'on appelle la séparation des églises et de l'État. Il y a un espace zéro, on commence à compter par zéro. Donc il y a une séparation totale, il n'y a pas seulement séparation des églises et de l'État, la loi civile est supérieure à la loi religieuse, aucun groupe religieux ne peut faire la loi, l'État n'intervient pas dans les affaires religieuses, il protège aussi les cultes, mais le fondement philosophique, c'est que l'association politique commence avec elle-même. Alors, est-ce que la laïcité est une spécialité française ? Pas complètement, non, puisque la laïcité s'inscrit dans ce qu'on a appelé l'installation des états de droit, le grand mouvement d'états de tolérance. Et à mon avis, du point de vue philosophique, la première démarche qui trace le champ conceptuel de la laïcité a été effectuée par un théoricien qui n'est pas du tout un théoricien de la laïcité, mais un théoricien de la tolérance, c'est l'anglais John Locke. John Locke, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit voilà, au fond, on organise la coexistence des libertés, de tous les cultes, de toutes les opinions, mais il n'admet pas les athées dans l'association politique.
Pierre-Henri Taboyau, la question de la laïcité, c'est une question complexe, en tout cas, peut-être pas pour les Français déjà, mais même alors pour les étrangers encore plus. Je vais raconter une histoire qui est assez parlante dans votre essai sur un étudiant américain, je crois,
oui,
qui a un
ça.
De vos cours, je ne sais pas si c'est à la Sorbonne.
À Sorbonne, oui, me posait la question, évidemment. Il venait du Texas, donc il me dit je ne comprends pas très bien la laïcité, puis moi j'ai quand même le sentiment que c'est un peu discriminatoire à l'égard des religions. Alors, comme il venait du Texas, l'image m'est venue immédiatement. Il dit voilà, vous prenez dans l'Ouest américain un saloon, vous avez deux saloons. Un premier saloon dans lequel il est écrit il est interdit de rentrer dans ce saloon avec votre arme, votre colt. Vous devez le laisser à l'entrée. Et puis, il y a un deuxième saloon où il est écrit, vous pouvez rentrer dans ce saloon avec le colt, mais sachez que tout le monde a un colt. Mmh. Voilà. Eh bien, c'est exactement les deux modèles, disons, anglo-saxons et français, de la tolérance d'un côté, de la laïcité de l'autre. Vous remplacez simplement colt par religion ou identité ou idéologie politique. Mmh. C'est-à-dire qu'en France, on considère que quand on rentre dans l'espace public, on va abandonner un petit peu de soi. On va laisser, c'est ce que Catherine Schnitzler appelle très joliment la respiration laïque. Mmh. C'est-à-dire, on sort de soi-même pour pouvoir entrer en contact avec les autres.
On garde un peu de marge.
On garde un peu de marge. Ou je dirais, on fait un pas de retrait. C'est-à-dire, pour accueillir l'autre, on va pas affirmer d'emblée son identité, sa croyance. On est un peu discret. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde étant supposé d'ailleurs avoir une religion ou appartenir à une communauté, eh bien, on considère que le libre jeu des communautés va finir par faire une sorte d'harmonie. Alors, je pense que quand tout va bien, les deux modèles se valent, au fond. Mais en revanche, quand les choses se tendent, et notamment quand vous avez au sein de ces sociétés un courant, qui n'est pas simplement un courant en disant « j'ai envie d'exprimer ma religion comme ça, tranquillement », mais qui est un courant qu'on appelle fondamentaliste. C'est-à-dire, le fondamentalisme, c'est l'idée de soumettre la totalité de votre vie privée, publique et civile à une idée ou à une idéologie. Ça, c'est ça le fondamentalisme. Eh bien, là, ça devient dangereux. Et on voit très bien que, par exemple, en Angleterre, pour moi, le contraire de la laïcité, c'est ça qui est intéressant. C'est le fondamentalisme, c'est pas la religion, c'est le fondamentalisme. Et on voit en Angleterre, effectivement, que dans ce régime où de cohabitation, de ghettoisation même des communautés, quand les choses se tendent, eh bien, on voit effectivement que, par exemple, les djihadistes sont entrés en Europe, c'est ce que dit très bien Hugo Micheron, par le long distance, c'est-à-dire par Londres, parce qu'il y avait une sorte de tolérance, utilisant les libertés pour les détruire. Et c'était explicite. Les discours des premiers djihadistes à Londres étaient explicites. Nous voulons détruire l'Angleterre, nous voulons détruire la démocratie, nous voulons abolir votre liberté. Et ils le disaient comme ça, dans une atmosphère, bien sûr, de très grande tolérance. Ça, c'est terriblement dangereux. Et donc, il faut que nous soyons capables, nous, en France, effectivement, de faire respecter la laïcité pour tous, pas simplement religieuse, politique aussi. Par exemple, les fonctionnaires, les profs, ils doivent faire attention à leurs opinions, à leurs idéologies, pas les balancer à leurs étudiants, à leurs élèves, comme ça. Et la laïcité religieuse. Et puis, être très combatif à l'égard. Et là, j'ai pas du tout envie de vivre avec des gens qui veulent détruire la démocratie. Et là, il faut être intraitable.
Jérémy Pelletier, est-ce que les Français sont d'accord avec l'opinion qui vient d'être émise par Pierre-Henri Tabouillot? La réflexion.
Une grande majorité des Français sont de grands défenseurs, en effet, de la loi de 1905, sont de grands défenseurs des lois qui sont venues étendre, en effet, la loi de 1905, en l'occurrence notamment la loi de 2004 sur l'interdiction des ports de signes religieux à l'école. C'est, je pense, le sujet central, c'est cette loi qu'il va falloir défendre dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, parce qu'on voit qu'en effet, une partie, notamment de la jeune génération, est très réticente vis-à-vis de cette loi, étant défensif vis-à-vis de cette loi. Donc, je pense que c'est cette loi-là qui est une loi centrale et qu'il va falloir défendre dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que, en effet, vous citiez la phrase de Catherine Kinsler qui parle de respiration laïque. Elle dit que l'école est l'espace de respiration laïque par excellence. Pourquoi ? Parce que c'est un espace qui permet, par exemple, à un individu qui, lorsqu'il est dans sa famille, est obligé de croire parce que ses parents croient, est obligé de participer aux coutumes religieuses de sa famille. Grâce à l'école, au collège, au lycée, peut-être que l'individu qui n'a pas envie de croire à ce que sa famille lui oblige de croire dans sa famille, cet individu-là est libre, une fois passé le portail de l'école, de faire ce qu'il veut, de ne plus croire et de ne plus être obligé de croire. Il peut s'adonner à ce qu'il veut. Donc c'est en ça où espace de respiration laïque. Pourquoi respiration ? Parce que c'est une loi de grande liberté. Ça rend les individus beaucoup plus libres qu'ils le sont. Et donc un individu qui ne veut pas suivre la coutume religieuse de ses parents, cette loi de 2004 lui permet justement d'être extrêmement libre à l'école et de ne pas être soumis finalement à ce que ses parents lui obligent de faire lorsqu'il est chez lui. Donc oui, les Français sont de grands défenseurs de la loi de 1905, sont de grands défenseurs de la loi de 2004 et ont envie que leurs responsables politiques, en effet, continuent à la défendre.
Jérémy Pelletier, merci. Je rappelle que vous êtes co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Pierre-Henri Tavoyot, voulons-nous encore vivre ensemble ? C'est donc l'essai. Donc,
oui, hein, la réponse est oui.
La réponse est oui, quand même. Et c'est donc le titre de l'essai que vous publiez chez Odile Jacob. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités.